Bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde Saye sur les ondes de Canal M, c'est l'émission Le National en ce 10 février 2017. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'émission, eh bien sachez qu'il s'agit de reprises. C'est un montage de reprises de segments d'émission qui nous semblent importants et importants pour tous les francophones au Québec et au Canada. Alors on commence tout de suite avec l'émission Accès libre du 7 février 2017. Beaucoup d'entre vous le savez, mais peut-être pas tout le monde. Bien sûr, il y a Canal M, mais Canal M, c'est la radio du Vues et Voix. Et Vues et Voix produit des livres audio pour des personnes qui vivent avec une déficience perceptuelle. Alors, avec Benoît Racette et la présidente et directrice générale Marjorie Théodore, on va en apprendre un petit peu plus sur la mission et les activités de Vues et Voix.
Voici maintenant le temps de notre chronique service qui vous présente des services que vous pouvez utiliser. On parle aujourd'hui du livre audio adapté et avec nous, rien de moins que la directrice générale de l'organisme Vues et Voix qui abrite la radio que vous écoutez à l'instant, Marjorie Théodore. Bonjour, bienvenue.
Mais bonjour.
Marjorie Théodore, ce livre audio que les gens entendent souvent d'ailleurs à notre antenne, ça s'adresse à qui?
Bien, premièrement, le livre audio, dans sa mission première, hein, on sait que Vues et Voix, qui était anciennement la magnétothèque, c'était vraiment pour les gens qui avaient une déficience visuelle. Mais au fil du temps, on a vraiment élargi. Donc, alors, c'est vraiment pour toutes les personnes qui ont une déficience visuelle physique. Et on parle aussi de la déficience perceptuelle. Mm-hmm. Donc, on parle aussi des troubles d'apprentissage. Alors, le livre audio est accessible et est vraiment utile pour tous ces publics cibles.
Donc, tous ces gens-là peuvent avoir besoin du livre audio. Puis, ça peut survenir dans la vie aussi. Hein. On peut peut-être avoir en cours de route quelques affaiblissements de notre vision.
Oui.
Puis peut-être découvrir qu'on présente des difficultés à la lecture. Donc, supposons là, qu'on se rend compte qu'on a besoin du livre audio. Comment on fait pour s'y inscrire?
Bien, comment on fait pour s'y inscrire présentement, c'est vraiment via la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, mm-hmm. parce qu'on sait que Vues et Voix est un producteur, donc sa diffusion est faite à la diffusion, je veux dire, de ses produits en livre audio est faite par la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, par leur service québécois du livre adapté. Mm-hmm. Donc, alors quelqu'un qui aurait besoin, qui a d'abord cet handicap, il faut le dire, hein, c'est un service spécialisé, doit aller s'inscrire via le service québécois du livre adapté et fournir aussi les documents qu'il faut pour ouais. démontrer aussi le handicap.
Donc, ça prend, au fond, une attestation médicale ou peut-être d'un ergothérapeute,
voilà,
optométriste.
Orthophéniste pour ceux qui ont les troubles d'apprentissage.
Okay.
Et puis, pour tous les autres, ben, c'est les spécialistes au niveau des yeux, etc.
OK. Supposons donc qu'on a besoin du livre. Est-ce qu'on en trouve beaucoup? Ceux qui sont produits par Vues et Voix, oui. Est-ce qu'on peut lire ce qu'on veut?
Bien, on peut lire ce qu'on veut parce qu'on suit quand même une politique de développement de collection mm-hmm. Qui est donnée aussi par la Grande Bibliothèque du Québec parce qu'il est le client principal de Vues et Voix. Donc, on imagine que cette collection est aussi équilibrée. Donc, alors, oui, on peut lire ce qu'on veut, mais malheureusement, ce qu'on doit toujours dire, c'est que c'est limité hein, parce qu'on parle quand même de 750, puis cette année, en plus, les deux prochaines années, c'est 700 titres par
ouais.
année.
Donc, 50 de moins par année?
Oui. C'est ça. Les deux prochaines années, on a 50 livres de moins par année. Donc, ça fait quand même 100 titres de moins sur 2 ans. Mm. Donc, ce qui est beaucoup et ce qui enlève aussi au niveau du choix.
Est-ce qu'il y a un moyen que les gens puissent aider? Est-ce qu'on retrouve 100 livres de plus?
Ah, bien, c'est toujours l'aspect financier hein,
ah,
des
oui, c'est
choses.
Ça.
C'est ça, c'est l'aspect financier. Donc, là, Vues et Voix produit pour la Grande Bibliothèque qui a un budget via un appel d'offres. Bon, alors, c'est malheureux que ça soit comme ça, mais c'est comme ça. Mais par contre, en tant que producteur, on peut produire pour d'autres institutions.
Ah,
on
oui.
peut produire pour tous ceux qui ont les troubles d'apprentissage. On pourrait produire pour le ministère de l'Éducation du Québec. Alors, c'est d'autres choses. Ce sont des pistes sur lesquels on est, mais malheureusement qui prennent du temps à se développer. Mais
est-ce que vous croyez que c'est connu d'ailleurs? Est-ce que les gens d'ailleurs pourraient aider à mieux faire connaître Vues et Voix?
Oui, il faut toujours travailler au sens de la visibilité, de mm-hmm. faire mieux connaître, mais au sein des publics cibles, oui, c'est quand même connu, le service de Vues et Voix. Puis au niveau des ministères aussi, du gouvernement, ouais. c'est connu parce qu'on fait nos représentations de façon régulière. Mais c'est aussi les systèmes. Hein. Les systèmes, ils prennent des décisions, puis souvent les décisions sont imposées. Puis on voit qu'à un moment donné, il y a des effets collatéraux.
Ouais.
Donc, on est obligé d'aller avec parce qu'on est quand même une organisation, on doit survivre, hein, on doit poursuivre. Mais il y a quand même beaucoup d'améliorations à faire au niveau du nombre de titres qu'on peut produire.
Est-ce qu'on vous en suggérez, nous qui entendons en ce moment, non seulement notre
oui.
émission, mais vos productions, est-ce qu'on peut suggérer des titres?
Bien, on peut suggérer des titres à la Grande Bibliothèque parce que c'est elle qui est le donneur d'ordre. Mm-hmm. Pour Vues et Voix en matière de production, oui, mais comme de fait, ils vont suivre aussi la politique de développement de collection, c'est-à-dire si le titre en question peut être inclus dans cette politique, oui, on le fera, ouais, tout à
okay.
fait.
Donc, pour accéder à toute l'information, on peut aussi se rendre sur le site web de Vues et Voix, donc vuesetvoix.com. Il ne faut jamais oublier les pluriels. Hein?
Tout à fait.
Donc, on épelle clairement vuesetvoix.com. D'ailleurs, en couverture, on voit en ce moment Claudia Larochelle, qui est oui. porte-parole. Elle est toujours porte-parole.
Oui, Claudia Larochelle est toujours porte-parole, mais elle a eu un bébé. On lui a laissé le temps de vivre sa maternité. Hein? Et puis, on va lui donner d'autres mandats, bien sûr, mais on voulait prendre le temps parce que ça a été un peu plus difficile pour elle en dernier,
ouais.
Les derniers mois. Oui, tout à fait.
Non, mais c'est exigeant. On l'a su aussi, mais on sait qu'elle embrasse cette cause, non seulement
Exactement.
Celle du livre, mais oui. le livre audio. Si vous la voyez là, sur la page où vous lisez Claudia Larochelle, vous êtes au bon endroit.
Au bon endroit, exactement.
Bon, merci beaucoup, Marjorie Théodore. Merci.
Bien, merci à toi. Ça fait plaisir.
Rappelons qu'au Québec, pour obtenir ces livres, il faut passer par le Service québécois du livre adapté et ailleurs au Canada par le Centre d'accès équitable aux bibliothèques, qu'on appelle également dans le CAEB. L'émission C'est bon pour la santé maintenant. En France, la situation des personnes autistes est préoccupante et elle est très, très dénoncée par l'auteur du Carnet d'un imposteur. Alors, faisons la connaissance avec Hugo Auriot, comédien et auteur de ce livre « Carnet d'un imposteur » qui témoigne auprès de Marianne Paquette de son expérience de père autiste en France.
En France, 650 000 personnes sont touchées par l'autisme. Également, 80 % des enfants français ne sont pas scolarisés. Et finalement, 77,4 % des autistes n'ont pas eu accès à un diagnostic précoce. On apprend tout ça dans le deuxième livre, le plus récent livre d'Hugo Auriot, Carnet d'un imposteur. Il est avec moi en studio. Merci d'être là, Hugo.
Bonjour.
Dans ce livre-là, vous parlez bien sûr de votre vie avec l'autisme. Vous en parlez peut-être davantage dans votre premier livre, L'Empereur, c'est moi, oui. Est-ce que c'est une façon... Et bien sûr, d'entrée de jeu, je pense que c'est important de dire que d'un point de vue québécois, ça a quelque chose d'assez préoccupant, ces statistiques-là, d'inquiétant. Est-ce que cette prise de parole dans le livre est une façon de dénoncer ou du moins de nommer la situation?
Exactement. Je suis convaincu que d'ici une centaine d'années ou 200 ans, ce qui se passe par rapport à la population autiste en France, on la qualifiera cela de génocide. En effet, les autistes en France, ce n'est pas trop de dire qu'ils sont déportés. On les emmène en Belgique dans ce qu'on appelle des usines à français aux frontières de notre pays et on s'évertue à surinstitutionnaliser cette question-là, c'est-à-dire que toute différence aujourd'hui est enfermée derrière des murs et on accompagne pas la différence. On préfère parler de prise en charge du handicap, alors que l'autisme est une part de la neurodiversité humaine, c'est une manière différente de fonctionner et qui peut tout à fait être en adéquation avec la société telle qu'elle est. Mais on refuse cette question-là en France. Parler de cela en France, parler de neurodiversité dans l'autisme en France est encore aujourd'hui politiquement incorrect, mais je le fais.
Oui. Vous pourriez déménager ici, Hugo Orio. Le point de vue serait différent.
Personnellement, pour moi, tout va bien, si vous voulez. C'est plutôt pour mes tas de camarades autistes pour qui il y a beaucoup de problèmes. Pour moi, en France, je suis arrivé à me débrouiller, mais je suis évidemment une exception. Mais ceci dit, mon cas est loin d'être exceptionnel. C'est-à-dire que je connais quelques autistes qui ont la chance d'avoir une vie, si vous voulez, plutôt autonome, même en France. Mais ce sont des autistes secrets. Ce sont des autistes qui n'ont jamais été diagnostiqués. Beaucoup se font diagnostiquer vers 50 ans, 40 ans. En France, il faut en moyenne 3 ans d'attente pour un diagnostic. Et très peu de psychiatres sont compétents en France. Imaginez-vous que les formations psychiatriques et psychologiques en France, vous étudiez l'autisme peut-être 2 heures dans vos formations. Et si vous y êtes, on va peut-être vous vanter les bienfaits des mérites de torture qu'on est encore les seuls à pratiquer en France, comme le packing, par exemple, qui consiste à envelopper un enfant autiste dans des linges humides et froids à 5 degrés, où on va encore dire que ça fait du bien. En France, c'est 3 milliards d'euros par an qui sont consacrés à l'enfermement de la population autistique, et c'est de l'argent public.
Hugo, vous parlez de votre vie avec l'autisme, et surtout aussi de votre nouveau rôle de père, et ça, on y reviendra. Comment ça se manifestait dans votre enfance, l'autisme? On apprend qu'à 6 ans, vous ne parliez pas encore. Est-ce qu'il y avait d'autres signaux qui pouvaient démontrer ce trouble du spectre
de l'autisme?
En effet,
pour la communication, la communication m'effrayait au plus haut point. Je n'étais pas prêt à communiquer. Je me suis ouvert au langage extrêmement tard, à l'âge de 6 ans, et je suis encore resté très taciturne jusqu'à l'âge de 12 ans. J'évitais aussi le regard des personnes. Les regards, c'est une telle avalanche d'informations sur l'individu. C'est la fenêtre de l'âme. Et donc cette avalanche d'informations me troublait énormément. Donc j'évitais le regard de chacun, et j'avais beaucoup de gestes répétitifs dans lesquels je me réfugiais. J'étais capable de tourner les roues des petites voitures pendant des journées entières. Et il a fallu à un moment donné... quand je me suis senti plutôt prêt à rentrer dans la communication dans une société basée sur le verbe, l'image, enfin toutes ces choses-là, tous ces codes qui ne sont pas évidents pour la population autistique, pour la spécificité autistique, quand j'ai commencé à le faire, je me suis muré dans une prison qui était le conformisme, le mur de la contrainte de normalité. Et ça, c'est ce que je raconte dans Carnet d'un imposteur, où là, à force d'essayer de me faire passer pour quelqu'un, entre guillemets, de ce qu'on qualifie de ce qui n'existe pas, mais de normal, au moment où je décide enfin de raconter mon histoire, de replonger dans ces parts d'ombre de moi-même, eh bien, je suis devenu un comédien tellement adroit pour me dissimuler qu'on refuse de me croire.
Qu'est-ce qui vous a amené à vous ouvrir? On entend parler dans le Carnet d'un imposteur de votre mère qui semble vous avoir accompagné dans cette différence-là.
J'ai eu beaucoup de chance avec ma mère, parce que c'est vrai que je n'ai bénéficié d'aucune méthode particulière. Aujourd'hui, il y a beaucoup de guerres de chapelle dans l'autisme où chacun essaye de trouver le ou la méthode miracle. Ça n'existe pas. Il faut rajouter du bon sens. Ma mère a eu le bon sens d'essayer de comprendre mon monde intérieur et quelque part d'être d'accord avec mon refus d'entrer dans une forme d'absurdité, mais en même temps, elle a me faire valoir l'importance, le fait qu'il était vital pour moi de quelque part quand même jouer le jeu, car sinon c'était l'enfermement en hôpital psychiatrique dès l'âge de 2 ans qui m'était destiné. Et elle s'est battue pour que je sois accepté à l'école ordinaire, ce qui a été difficile parce qu'à l'époque, et encore aujourd'hui c'est un peu encore balbutiant, il n'était pas du tout question de parler de réformer le système scolaire pour permettre d'ouvrir notre scolarité, pour créer une société inclusive, un système scolaire qui accepte toutes les différences et surtout avec des personnes formées pour accueillir ces différences afin de bâtir une société non plus basée sur la contrainte de normalité, mais sur la différence de chacun.
Vous êtes papa d'un petit garçon de presque 4 ans, Hugo.
Oui.
Et dans ce livre, vous parlez de ce nouveau rôle de père qui est confrontant. Est-ce qu'il l'est davantage parce que vous vivez avec l'autisme?
Alors, je ne pourrais pas vraiment dire. Disons que, en effet, tout le monde croit que je fais des livres sur l'autisme. En fait, je fais des livres sur la condition humaine en général. C'est-à-dire que le message de ce livre, quelque part, c'est qu'un autiste est un homme comme un autre, quelque part. Et la paternité est une révolution intérieure. C'est la plus grande révolution intérieure que j'ai connue. Quand ça arrive, cela bouleverse tous vos schémas établis, tous vos plans, toutes vos certitudes. Et tout cela se retrouve balayé du jour au lendemain. Mais en même temps, tant mieux, parce que les certitudes sont faites pour être balayées.
Oui. D'entrer en contact avec votre fils, de trouver les gestes réconfortants, les gestes apaisants.
C'est un monde étranger pour moi, parce que mon fils, justement, lui, est très heureux d'être un enfant. J'ai passé mon enfance à vouloir sortir de mon enfance, à vouloir la fouler aux pieds. Je voulais devenir un adulte, un grand tout de suite. Mon fils, il est heureux d'être un enfant. Il est taquin, il est joueur. Et donc, évidemment, je me dis comment être un bon père alors que moi, j'ai détesté être un enfant. Alors, qu'est-ce que je fais? Je le laisse me guider dans ce monde de l'enfance que j'ai récusé et que j'ai fui. Et finalement, quelque part, je vis une enfance par procuration avec lui, et il m'emmène dans ce monde fait de jeux, de naïveté, de malice, qui m'était interdit
en
raison
de ma
spécificité. C'est un très beau cadeau. Il me fait des cadeaux tous les jours comme ça.
Ouais. J'ai envie de profiter de votre présence, Hugo Auriot, pour nous mettre, se permettre d'entrer dans la tête d'une personne qui vit avec l'autisme. Comment mieux comprendre? Évidemment, c'est un spectre, l'autisme. Ça se vit différemment chez chaque personne, mais comment on peut arriver à mieux entrer en contact, à mieux comprendre et à mieux accompagner cette différence?
Déjà, je pense qu'il faut, avant de vouloir remettre en question l'autisme, ce qu'on a tendance à faire, c'est plutôt remettre en question les standards de notre société. C'est-à-dire que l'autisme appelle à une remise en question du fonctionnement sociétal. Et le fonctionnement sociétal, bien souvent, est bâti sur ce qu'on appelle une forme de contrainte de normalité établie par une majorité silencieuse. Mais il faut penser différemment. Il faut... l'autisme... Il y a beaucoup de personnes autistes qui ont révolutionné le monde. Les grandes inventions ont été faites par des personnes qui sont fortement soupçonnées d'autisme. Aujourd'hui, j'entends des discours comme quoi on voudrait corriger l'autisme, comme quoi on voudrait corriger la diversité humaine. Et ça, c'est extrêmement grave. Car là, on peut rentrer dans une forme d'eugénisme, de nivellement par le bas. Et donc ça, c'est l'avènement de la médiocrité. Et ça, c'est le danger de notre civilisation et nous devons faire très attention. L'autisme est peut-être aussi, peut être pris comme une sorte de lanceur d'alerte par rapport à cela.
Et à un moment donné aussi, il faut savoir reconnaître et accueillir, parce que si on regarde les statistiques, et c'est la même chose au Québec, de plus en plus de diagnostics surviennent. Il y a de plus en plus de naissances où l'enfant, on découvre que l'enfant vit avec l'autisme. Donc, de trouver, oui, les paramètres pour mieux vivre avec cette personne-là, se diriger vers de la recherche, vers des ressources, vers la scolarité aussi, également. Et je pense qu'un livre comme ça peut nous amener, je le souhaite aussi. Il est accueilli, en terminant, de quelle façon, de votre côté de pays, chez vous, Hugo Auriot?
L'accueil est bon, on a un très, très bon accueil critique, le public est au rendez-vous. Et je suis actuellement déjà en train de préparer mon troisième livre.
On suivra ça de près. Hugo Auriot, auteur de ce livre « Carnet d'un imposteur » que vous pouvez trouver du côté des éditions de l'Homme. Ça a été vraiment un plaisir de vous parler aujourd'hui.
Il est toujours agréable d'avoir des nouvelles voix collaboratrices et c'est le cas à l'émission « Des livres plein les oreilles ». Permettez-moi de vous présenter Siena Trigiani. Un jour, ils entendront mes silences de Marie-Josée Martin. C'est le livre dont elle nous parle pour sa première participation. Bonjour Siena.
Bonjour Clotilde, comment allez-vous?
Je vais très très bien, c'est un grand jour. Hein. Ça fait longtemps qu'on en parle, vous et moi.
Oui, ça fait un bon bout.
Il faut dire que vous habitez assez loin. Vous êtes d'où, Siena?
Je viens de Hamilton, en Ontario. C'est à peu près une heure de Toronto. Je ne sais pas combien de kilomètres. Je suis pas bonne en géographie, mais à peu près une heure de Toronto.
Et vous nous écoutez régulièrement? Vous écoutez cette émission?
Oui, chaque semaine.
Et qui vous donne des envies de lecture. Et je pense finalement que vous avez fait affaire avec le SQLA et que vous en recevez, c'est bien ça?
En fait, j'ai rempli le formulaire.
Oui.
J'attends toujours une attestation.
Attestation, bon.
J'ai accès à la bibliothèque d'INCA et ce qui est vraiment intéressant, c'est que moi qui aime beaucoup la technologie, je peux les écouter sur mon cellulaire.
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Siena, je peux me permettre de vous demander, vous êtes complètement non-voyante ou partiellement?
Je suis complètement non-voyante de naissance.
De naissance?
Oui.
D'accord. Et vous êtes donc une boulimique de livres audio.
Oui.
C'est pour ça que je vous disais, Siena, il faut participer.
Ah oui, ça me fait plaisir.
Alors parlez-nous, présentez-nous d'abord le livre dont vous voulez nous parler aujourd'hui.
Alors le livre s'appelle « Un jour, ils entendront mes silences ».
Oui.
Et c'est un livre d'une auteure montréalaise qui s'appelle Marie-Josée Martin. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant, elle aussi, elle est traductrice et moi aussi, j'ai étudié en traduction.
OK.
Donc, elle est traductrice, réviseur, chroniqueuse et son roman, Un jour, ils entendront le silence. C'est l'histoire de la petite Corinne.
Oui.
Et elle est lourdement handicapée. Elle est atteinte de la paralysie cérébrale et elle n'arrive pas à s'exprimer. Enfin, elle ne peut pas parler, mais elle n'arrive presque pas à bouger.
Est-ce que c'est ce qu'on appelle un peu le... Est-ce qu'elle vit le syndrome de l'enfermement?
Oui. Et ce qui est vraiment difficile pour elle, c'est que ses parents, sa famille ne comprend pas, ou je devrais dire, sa famille comprend très difficilement son handicap. Mm. Et il n'arrive pas, surtout le père, d'ailleurs, Raymond Larose, c'est le père de Corinne.
Oui,
et
oui.
Lui, il arrive très difficilement à comprendre son handicap et il arrive très difficilement à l'accepter.
À l'accepter et à communiquer avec cette jeune femme, c'est ça,
absolument.
Avec sa propre fille. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'elle elle est décédée pendant un temps. Hein. Ce sont les médecins qui la ramènent à la vie, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Et il ne savait pas si elle allait vivre. Et cette jeune femme, elle, malgré son handicap, elle est très intelligente.
Mm-hmm.
Elle est très intelligente, elle comprend tout ce qui se passe autour d'elle. Et c'est intéressant de savoir de son point de vue.
De son point de vue
elle,
à elle, oui.
Comment elle perçoit le comportement de son famille, de sa famille, de...
Alors justement, est-ce qu'elle en veut à ce père de ne pas comprendre son handicap? Est-ce qu'elle lui pardonne? Est-ce qu'elle...
Vers la fin, je ne veux pas dire à la fin, mais vers la fin, il lui confesse, il lui fait une confession, il lui dit « Je regrette de ne pas avoir... de ne pas avoir... » compris, de ne pas avoir...
De ne pas avoir su accepter et comprendre exactement qui tu étais dans ta différence, quoi.
Absolument.
Mm-hmm. Mais est-ce qu'on la voit vieillir? Parce qu'au moment où commence, entre guillemets, l'action, parce que c'est un accident qui l'amène à ce handicap?
C'est un manque d'oxygène.
Un manque d'oxygène à la naissance.
À la naissance, oui.
D'accord. Donc, ça part vraiment de sa naissance à elle. Et on va jusqu'à quel âge à ce moment-là? On la suit pendant combien de temps, Corinne?
On la suit pendant, je dirais, 12-13 ans.
OK.
Et puis, vers la fin de l'histoire, sa petite sœur, Safia, c'est vraiment elle qui arrive très facilement à comprendre, à communiquer avec Corinne et à vraiment la comprendre à travers ses gestes, à travers ses yeux.
Et la maman, là-dedans, la mère?
La mère, Magali, elle essaie de se concentrer sur le positif. Au début, on voit qu'elle avait des doutes par rapport à Corinne, par rapport à sa capacité de comprendre ce qui se passe autour d'elle, mais petit à petit, on voit qu'elle dit à Raymond, elle dit...
Raymond le père, hein, c'est ça.
Raymond le père, oui, c'est ça. Elle dit, écoute, il faut que tu acceptes Corinne telle qu'elle est,
bien sûr. Est-ce que j'avais lu quelque part, à un moment donné, quand le livre est sorti, une critique d'ailleurs qui n'était pas très gentille. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, vous. Bon, vous savez que moi, je ne suis pas ici pour faire des critiques, alors je ne me le permets pas. Mais j'avais lu Quelqu'un disait que la petite Corinne était présentée dans ce livre-là comme un, comme une espèce de phénomène de foire et que ça l'avait dérangée beaucoup.
Ça... Oui, j'ai lu le même...
Oui, commentaire.
Le même commentaire, la même critique. Et moi, en lisant ce roman, je me suis dit, ben c'est vrai que ses parents ont eu de la difficulté à communiquer avec elle et donc ils parlaient devant elle comme si elle n'était pas là.
Mm-hmm. Oui. Je vois bien un petit peu comment. Mais dites-moi, quand on la quitte sans nous donner... Parce qu'à un moment donné, ça prend une fin à ce livre-là, mais est-ce qu'il y a de l'espoir pour Corinne?
Il y a de l'espoir et on voit vers le sixième chapitre, elle se fait opérer pour ajuster sa posture.
Okay.
Et à l'hôpital, on lui montre une espèce de tableau de communication, le tableau BLISS, B-L-I-S-S.
Oui.
Et il s'agit d'un tableau qui permet à une personne non-verbale de communiquer en pointant le doigt vers les symboles.
OK. Mais sauf qu'elle, elle ne voit pas. Ah ben si, elle voit, c'est vrai.
Oui, elle voit.
Mais oui, bien sûr. Donc ça lui permet de faire avancer un petit peu sa communication, quoi,
oui,
si je vous comprends bien.
Au début, il y avait des doutes par rapport à sa capacité de communiquer en utilisant le tableau BLISS.
Mais finalement, elle y parvient et ça lui donne de l'espoir, quoi, si j'entends bien ce que vous nous dites.
Oui, ça lui donne de l'espoir et... elle raconte une anecdote justement où Benoît était en train de faire. Benoît, c'est le frère.
D'accord.
Le frère aîné.
Oui.
Et elle avait raconté une anecdote où il était en train de faire ses devoirs et puis elle a renversé un verre de coca il lui donne le tableau BLISS et il lui dit ben, qu'est-ce que t'as à dire et puis elle arrive à dire je suis désolée ça lui fait avancer un petit peu.
Ouais, mais enfin bon l'enfermement hein, il me semble que c'est un livre à quand on veut en savoir un petit peu plus sur ce syndrome et surtout ce que cela sous-tend, je pense que vous recommandez, Sienna Trigiani, que les personnes se procurent un jour « Ils entendront mes silences » de Marie-Josée Martin.
Je vous rappelle que c'est disponible sur le site de l'INCA.
L'INCA.
Alors, biblio-inca.ca.
D'accord. Bon, ben écoutez, merci beaucoup, Sienna. Voilà, ça y est, vous avez cassé la glace.
Merci à vous.
C'était une première.
Oui.
Alors continuez comme ça, bonne lecture et puis on va se retrouver dans le courant de la saison.
Merci beaucoup.
Je vous embrasse.
Bonne journée.
Bonne journée, au revoir.
Au revoir.
Et bien sûr, livre disponible via le SQLA au Québec et le CAEB ailleurs au Canada. Restez avec nous, le National se poursuit dans quelques secondes. National, la suite est toujours Clotilde Seille en votre compagnie qui vous propose de vous reporter dans l'émission Portrait de famille du 6 février dernier. Alors qu'on découvre Jennifer Maline, mère adoptive d'Adami qui vit avec le syndrome de l'alcoolisme fœtal.
Aujourd'hui, on vous présente le portrait de famille de Jennifer Maline. Elle est maman d'Adami qui a 7 ans et demi. Presque 8, je pense. Jennifer, elle est aussi enseignante de yoga et de méditation, donc ça risque d'être une émission plutôt zen. Bon, c'est elle-même qui le dit, là. Zen avec Jen. bon, vous savez, comme à l'habitude,
Je me suis inspirée du quotidien de Jennifer, de ses intérêts, ses questionnements, son vécu pour construire l'émission. Merci beaucoup d'être là.
Ben, merci de l'invitation.
Je vais faire un grand, grand effort pour vous voyez, Jennifer, mais on se connaît un peu, c'est important de le dire. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'entends parler d'Adami, que vous appelez votre petit Bouddha.
Oui, mon petit Bouddha de la maternité, un petit gourou.
Pourquoi donc? Parce que je pense que c'est un enfant qui est très lumineux, entre autres choses.
Ah oui, il est calme. C'est lui qui, même si le nom de ma compagnie, c'est Zen avec Jen, depuis qu'il est bébé, il est tellement calme qu'il a comme cette façon de juste comme mettre une ambiance chill puis cool. Fait qu'il est vraiment comme un cool Bouddha, là.
Votre photo, Jennifer, à vous et Adami, circule en ce moment. Et là, je vous demandais tout à l'heure, il y a quel âge là-dessus, Adami? Et vous m'avez dit, j'ai aucune idée.
J'ai pas de photo. Je suis vraiment dans l'instant présent. C'est ça, mon problème.
Ouais.
Alors, c'est rare que j'ai un écran qui sépare moi et mon fils. Moi,
ouais.
J'aime le regarder de mes yeux. Puis vivre l'expérience. Alors, sur la photo, j'ai aucune idée. Je pense que c'est Pâques, il y a 3 ans. Mais je suis vraiment désolée. Mais il est vraiment beau, là.
Ah oh oui, vous êtes magnifique sur cette photo-là, tous les deux. Adami, il vit avec le syndrome d'alcoolisme fœtal. Ça amène plein de défis dans sa vie, dans votre vie aussi, Jennifer. On va y revenir en deuxième partie d'émission parce que avant, je veux que l'on parle ensemble de l'aventure de l'adoption. Vous avez eu Adami, vous l'avez adopté, en fait, lorsqu'il avait 7 mois et demi. C'est un petit garçon qui est né à Montréal, mais d'origine inuit. Sa famille biologique est à Koudjouak. Et l'adoption, pour vous, vous êtes fertile. Je pense que c'est important de le dire d'entrée de jeu, mais ça allait de soi depuis toujours, depuis votre tendre enfance.
Oui, moi, absolument, l'adoption, c'est la dernière option pour les couples ou pour quelqu'un qui veut devenir parent. Puis moi, c'était depuis que j'ai 9 ans, que c'était l'option, point final.
Ouais.
Puis c'est comme j'ai été touchée par un documentaire qui passait à la télévision. Je n'étais pas supposée de le regarder. C'était sur des enfants dans un orphelinat en Roumanie qui cherchaient de la famille et qui, en tout cas, la plupart avaient le sida. Je ne savais pas c'était quoi. Alors, j'ai vraiment comme...
Et c'était des enfants qui n'avaient pas de parents.
Oui.
Et vous vous disiez, ben là, on ne peut pas laisser ça. Vous avez demandé à l'époque à vos parents d'adopter ces enfants-là, d'adopter des enfants. Ils ont dit non. Et vous vous êtes dit à ce moment-là, ben moi, quand je vais être grande, je vais adopter.
Ouais.
C'est une histoire qui est magique, cette histoire, cette aventure d'adoption avec Adami. Mais ça ne s'est pas passé comme vous l'aviez prévu au départ, parce qu'avec votre conjoint de l'époque, l'idée était d'adopter à l'international au début.
Oui, bien, dans le fond, bref, j'ai toujours comme eu... Bon, c'est un peu ésotérique, mais j'ai toujours su que ce serait un garçon avec les yeux bridés.
Oui.
Puis moi, des yeux bridés, je voyais ça asiatique. J'ai jamais pensé que ça serait ici. Puis c'était un Inuit. Alors oui, on a commencé à donner nos noms, mais c'était assez intense pour international. Il y a comme 2 enfants par pays, par année, pour des familles. Alors, on s'est comme senti un peu... on s'est senti mal pour les parents qui peuvent pas avoir d'enfants.
Oui.
Quand on était pigé, mettons, on pigeait des chiffres, puis je voyais du monde pleurer autour de nous parce qu'il était le numéro 32, puis nous autres, on était le numéro 11, on préférait donner notre numéro pour que ça soit plus vite pour eux, puisque nous, on était fertiles.
Finalement, vous avez décidé d'aller vers la banque mixte, qui est ici, au Québec, et vous vous disiez, ben moi, je suis prête à vivre le risque d'être une famille d'accueil, de voir un enfant être avec moi, temps et repartir juste pour lui donner un havre de paix. C'était ça aussi votre objectif dans tout ça?
Ben oui. Oui, parce que ben j'ai toujours eu la conviction que un enfant... j'ai toujours eu la conviction que cet enfant-là resterait avec nous. C'était impossible, c'était comme inconcevable, mais je me disais quand même que si c'était le cas, tant mieux. C'était une belle expérience d'enrichissement puis d'amour.
Ouais.
Alors, on a pris le risque. Mais même pas. On a juste pris la décision.
Oui. Et ce qui est arrivé, Adami, bon, est né à Montréal, d'une maman d'origine Inuit. Sa famille, comme je le disais tout à l'heure, vient de Koudjouak. et vous avez senti que cet enfant-là, cette nuit-là, était né. Et on dit que c'est un peu ésotérique, mais vous l'avez ressenti.
Vraiment, puis oui, cette nuit-là, je me suis réveillée carré dans le lit, puis j'ai fait « Oh là là, il est là, il nous attend ». Puis c'est la première fois que j'appelais notre travailleuse sociale depuis les démarches, parce qu'on était... C'était vraiment... On le faisait... Mon ex-conjoint, il me faisait confiance dans mon appel, parce qu'on l'a fait, mais sans avoir une date. Nous, c'était, ça arrive quand ça arrive.
Ouais, on n'est pas pressé.
Vraiment,
ouais.
Vraiment pas. On s'était fait dire que ça pourrait prendre 2-3 ans. Fait que là, ça faisait même pas un an. Puis là, cette nuit-là, ça a fait OK, il est là. Puis quand j'ai appelé la travailleuse sociale, elle n'a pas pu me dire sur le coup parce que c'est le secret professionnel, mais elle venait juste de nous jumeler, moi et mon ex-mari, mais moi je dis moi, parce que c'est ouais. Moi. C'est mon expérience. Et Adami. On l'a su juste 7 mois plus tard là, que ça, ce matin-là, c'était déjà, on était comme ses parents d'accueil dans l'éventualité. Là.
Il avait 7 mois et demi à ce moment-là. Comment se sont déroulées les premières années avec Adami, votre fils adoptif?
Moi, je dirais plus, je calculerais ça en premier mois. Il y a eu des gros... c'est surtout... Je calcule même pas ça en année. C'est les premiers jours, ça a été tellement rapide. Et puis, on a comme juste eu le temps de rencontrer... quand on s'est vu, Adami puis moi, ses yeux ont allumé puis il m'a sauté dans les bras. Et puis, après ça, ça a été vite. Et c'est à peu près 3 mois après qu'Adami soit arrivé avec nous que Adami avait des suivis chaque mois à l'hôpital Sainte-Justine. Quand on devient famille d'accueil, on est super bien équipé. On arrive avec un team, là, t'as l'équipe là, qui arrive. Alors, nous, à chaque mois, on allait voir. Puis c'est là qu'ils ont découvert qu'Adami avait le SAF.
Oui, le syndrome d'alcoolisme fœtal. Ouais.
Puis il avait été mal diagnostiqué avant. Puis nous, il y a comme un menu qu'on remplit. Là. Ça fait un peu bizarre là, de savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche en adoption. Puis c'était un des points qu'on a. C'était vraiment clair. On ne voulait pas un enfant avec le SAF.
Et puis, en fait, vous ne vouliez pas d'enfant avec de besoins particuliers à ce moment-là.
Non, et surtout ça, moi, le SAF me faisait vraiment, vraiment peur. Je ne le comprenais pas. On connaît tellement... C'est tellement peu connu que c'est comme... C'était très mystérieux. Alors, ça a été la plus belle erreur.
belle surprise.
Oui, ça a été la seule erreur du parcours avec d'adoption. Puis une chance. Oui. Puis,
et cette rencontre avec Adami qui se poursuit maintenant depuis 7 ans et demi et qui fait de vous cette maman, bien sûr, ça amène des défis, adopter un enfant, des joies aussi, et on va en parler davantage. On parlait tout à l'heure en première partie d'émission, Jennifer, de ce diagnostic-là qui est arrivé, celui du SAF. Tout à l'heure, Joanne nous disait que maintenant on dit TSAF pour trouble du syndrome de l'alcoolisme fœtal. Pour vous, ça, c'est pas vraiment important, les termes, hein, je pense?
Non, je dois avouer que... Dr. Chouane m'avait dit, il m'avait proposé plein de livres à lire quand il nous a diagnostiqué Adami. Puis j'ai jamais fait la lecture parce que j'ai décidé de me concentrer sur mon enfant, connaître qui il est, puis de me concentrer sur la santé de mon enfant. Puis le reste a suivi. Vraiment, là, je suis quand même fière de moi d'avoir suivi mon instinct maternel parce que même quand on adopte, on l'a, notre instinct. Elle est là, automatiquement. Alors oui. Et puis, quand c'est venu... comme je disais, c'est venu 3 mois plus tard. Et je dois avouer que moi, quand Dr. Chouane il a diagnostiqué Adami, j'ai pleuré ma vie cette journée-là.
Ouais.
J'étais un peu triste pour c'était quoi le futur d'Adami. J'ai même pas pensé une fois à dans quoi je m'embarque. Moi, c'est qu'est-ce qui va arriver à Adami plus tard. Puis, une fois que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, là, c'est le temps de retrousser nos manches. Puis, j'ai continué à faire ce que je faisais. La minute qu'Adami est arrivée avec nous, moi, ça a été comme automatiquement, j'ai mis en pratique la zénitude que j'ai. Je suis professeure de yoga, même pour les enfants avec des besoins particuliers. J'enseigne aux enfants le bien-être, la méditation, la respiration. Automatiquement, c'est comme... toutes mes études, toute ma formation de 20 ans que j'ai mis en pratique, puis ça l'a vraiment fait comme des petits miracles, oui. Dont l'alimentation. J'ai coupé le sucre. Moi, Adami est arrivé, puis il mangeait déjà plein de gâteaux à 7 mois et demi. Il avait été vraiment habitué au sucre, puis moi, l'alcoolisme fœtal, ça a fait trop d'alcool dans le sang, sucre qui se transforme en sucre. Alors, C'est ça. Ouais.
Le syndrome d'alcoolisme fœtal, ça a quand même créé des remous. À ce moment-là, ça a même créé une rupture dans votre couple. Vous étiez avec votre conjoint depuis 10 ans. Et pour lui, ça l'a un petit peu ébranlé à ce moment-là de savoir que Adami vivait avec le syndrome d'alcoolisme fœtal.
Ouais. Disons que la journée qu'on l'a su, lui était calme. C'est moi qui étais en morceaux. Et le lendemain, lui a eu le temps de comme que ça mijote. Puis il m'a comme carrément dit qu'il était incapable d'avoir un enfant avec un syndrome d'alcoolisme fœtal, puis qu'il préférait qu'on le ramène.
Ouais.
Puis moi, c'était clair que la minute que j'ai vu Adami, la minute qu'il est né ce soir-là, je savais qu'il était mon enfant. Alors j'ai choisi mon enfant sans hésitation, puis ça a été la plus belle décision de ma vie.
Ouais. Ce qui fait de vous maintenant, Jennifer, une maman monoparentale, ça amène des défis, notamment lorsqu'on a un enfant à besoin particulier parce qu'on est confronté. Déjà, quand on est parent, on a plein de décisions à prendre. Ouais. Quand l'enfant a des besoins, disons, plus spécifiques, encore plus, est-ce que c'est un poids qui est lourd parfois?
Je sens pas le poids parce que je suis tellement dans l'action. J'ai pas le temps trop de réfléchir. Comme j'ai dit, l'instinct puis l'intuition, il faut vraiment s'y fier. Moi, j'ai de la famille qui est vraiment loin. Puis du début, je dois avouer...
Ils sont en Abitibi, je pense.
Oui, hein? C'est ça. Mais les gens ne comprennent pas toujours les choix que je fais. Heureusement, j'ai Dr. Chouan qui pense vraiment en dehors de la boîte. Il m'a vraiment aidé. Sandra Caron puis Dr. Chouan m'ont aidé à prendre les bonnes décisions, dont la meilleure aussi que j'ai pu choisir, c'est de garder mon fils 2 ans de suite en maternelle. Il est brillant, mon garçon. Il y a 100% sur ses bulletins. Par contre, émotionnellement, c'était préférable de le garder 1 an de plus, même si l'école, mes amis, ma famille ne comprenaient pas ce choix-là. Alors, le poids, c'est plus de devoir foncer à travers les doutes des autres. Il faut juste rester vraiment concentré sur ce qu'on fait en tant que parent. Puis l'enfant, c'est Adami qui compte là-dedans. Ouais. Alors, moi, j'ai vraiment suivi le rythme d'Adami.
Ouais.
Il est calme. Son rythme est lent, alors je dois ralentir et je dois lui ouvrir aussi l'espace pour être qui il est.
Oui. Comment se manifeste le TSAF ou le syndrome d'alcoolisme fœtal chez Adami?
En tant que bébé, moi, je pensais que c'était... Ben, c'est pour ça que je l'appelle mon Bouddha. Il était vraiment calme. Il dormait 18 heures par jour. C'est un lion. Pendant 3 ans, il a dormi. C'est comme si son cerveau devait comme créer s'organiser.
Se réorganiser.
Ouais. Ça a pris 3 ans. Et alors, moi, j'ai dû vraiment suivre son rythme. Fait que, après, c'est plus maintenant que ça commence à sortir. Puis Dr. Chouan, il m'avait averti, c'est vers l'âge de 7-8 ans, à cause qu'il commence à comprendre qu'il est différent des autres, puis il ne sait pas comment, il ne sait pas pourquoi. Alors là, ça commence à sortir depuis 1 an en crise. Puis des fois, c'est des crises qui durent 1 heure, mais c'est...
Des grosses colères.
C'est des colères, puis ça peut être... il est tellement, vraiment peace and love, cet enfant-là. Puis quand il y a trop d'émotions qu'il ne comprend pas, il explose. Puis vu que je suis la seule personne dont il fait vraiment confiance, ben il se permet d'exploser avec moi. Et oui, c'est ça. Mais ça arrive pas souvent. Ça arrive une fois par mois. Parfois, si son père donne pas de nouvelles pendant quelques semaines... Ça l'insécurise. Là, c'est ça que je suis en train de comprendre, là, qu'il y a tellement besoin de sécurité.
Bien sûr.
Malgré moi, il faut qu'ailleurs, dans d'autres sphères qu'avec sa mère...
Qu'il y ait des adultes signifiants pour lui.
Vraiment.
Jennifer, lorsqu'on a un bébé qui dort pendant 17-18 heures par jour et qu'on se dit en tant que mère, moi, je prends le rythme de mon enfant, il en a besoin, ça nous isole, c'est inévitable à un moment donné. Là.
Oui. Surtout, moi, je suis une femme d'action. J'enseignais 20-22 cours de yoga par semaine. Et quand il est arrivé, j'ai juste gardé mon yoga pour enfants parce que c'est mon bonbon. Mais encore là, je me suis vraiment réajustée. Fait que oui, j'ai été isolée pendant pratiquement 3 ans parce que mon garçon, il dormait simplement chez nous ou chez sa grand-mère en Abitibi. Alors, il a fallu vraiment que... Ben c'est ça. J'ai trouvé ça la partie la plus difficile. Les gens, « Ah, t'es chanceuse, t'as un enfant qui dort. » Je suis comme, « Oui, mais j'aimerais ça aller dehors. J'aimerais ça faire d'autres choses. J'aimerais ça aller rencontrer des gens. » Mais il y avait besoin d'être comme dans une caverne. Puis, j'y ai offert.
Oui. Vous lui avez offert bien des choses aussi, oui. Et notamment de le suivre, de l'accompagner avec son besoin particulier. On va tenter, c'est assez mystérieux, on n'en parle pas beaucoup au Québec et au Canada du syndrome d'alcoolisme fœtal, donc on va tenter de démystifier tout ça avec Sandra Caron, on la joint à l'instant.
L'alcoolisme fœtal, quel souci, hein, quel problème? Et savez-vous qu'au Canada, suite à la consommation d'alcool par la mère durant la grossesse, un enfant sur 1000 naît avec le syndrome de l'alcoolisme fœtal et connaîtra plus tard des problèmes mentaux et physiques de développement? Alors, je vous propose d'entendre avec Marie-Anne Paquette, toujours, Sandra Caron, qui est infirmière clinicienne à la Clinique de santé internationale et tuberculose du CHU Sainte-Justine. Et elle nous parle de ce drame, de ce problème qu'est le syndrome d'alcoolisme fœtal.
Au Canada, un bébé sur 1000 serait touché par le syndrome d'alcoolisme fœtal, et ce, chaque année. Et pourtant, on n'en parle pas beaucoup, ça reste assez méconnu. On va tenter d'en savoir davantage avec Sandra Caron. Elle est infirmière clinicienne à la Clinique de santé internationale et tuberculose au CHU Sainte-Justine. Bonjour Sandra.
Bonjour Marianne.
Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que depuis tout à l'heure, Jennifer parle de vous. elle dit que vous l'aidez presque à élever à l'amie. Vous êtes le bras gauche, le bras droit aussi du docteur Jean-François Chicoine. Vous travaillez étroitement avec lui à cette clinique-là pour aider des parents, entre autres, qui vivent avec des enfants qui ont le SAF. Comment on diagnostique, Sandra, le SAF? Parce que, c'est assez sous-documenté, est-ce que le diagnostic est plus complexe?
Le diagnostic du SAF, ou plutôt de l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale, donc ça regroupe et le SAF et le EAF, donc les effets de l'alcool sur le fœtus. C'est diagnostique à n'importe quel âge de l'enfant. Donc c'est certain que si on a une histoire de consommation d'alcool chez la mère biologique, ça aide là, au diagnostic. Par contre, c'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours les parents biologiques ou c'est pas toujours documenté non plus.
Ouais.
C'est un diagnostic qui est pas évident à faire, qui est probablement sous-diagnostiqué également. Donc, c'est environ 1 à 4 % des naissances là, selon les populations, selon les données au Canada. Ce qui est à peu près le même taux là, que l'autisme. Là.
OK, quand même. Hein,
environ. Mais...
Et pourtant, on en parle tellement moins et ça semble tellement moins clair. Est-ce qu'il y a des symptômes qui reviennent de façon assez évidente pour déterminer le SAF?
C'est des enfants. En fait, en bas âge, les enfants qui ont le syndrome d'alcoolisation fœtale, donc le SAF pur, ont des stigmates faciaux. Donc, ils vont avoir...
les yeux bridés un petit peu?
Oui, les yeux un petit peu bridés, le pont nasal un peu bas, un petit menton, l'absence de philtrum, qui est la petite ligne qu'on a sous le nez, qui relie le bas de notre nez jusqu'à la lèvre. Habituellement, c'est un peu creusé. Les enfants avec un SAF, ça va être plutôt plat, donc une espèce d'impression de bec un peu de canard quand on les regarde de profil. Des yeux, on l'a dit, déjà bridés. Donc, un ou plusieurs de ces symptômes-là, de ces stigmates faciaux-là, vont être présents. Et ça, c'est plus visible entre 18 mois et 4 ans. Après ça, la croissance fait que ça devient un peu plus subtil, un peu moins visible. Sinon, en bas âge, les enfants... qui peuvent avoir des difficultés de succion là à la naissance, des enfants qui vont être petits aussi, un retard de croissance sous le 10e percentile, là, autant pour le poids que la taille. Et il peut avoir des anomalies de structure du cerveau chez le vrai SAF, visible là, à l'imagerie médicale. Il peut avoir un retard de développement. Donc, l'enfant va faire un petit peu tout, mais... va faire tout, en fait, mais un peu plus tard. Donc, va marcher plus tard, va ramper plus tard, va parler plus tard. Donc, tout ça va être un peu décalé. Un peu plus, en fait, nettement plus d'hyperactivité. L'attention est difficile également. Donc, le fameux TDAH, qui, dans ce cas-ci, va être causé là, vraiment par l'alcool qui a atteint le cerveau pendant la grossesse. Pas beaucoup de jugement. Donc, le jugement autant par rapport à autrui que par rapport au... dans ses décisions pour sa sécurité, mm-hmm. par exemple. Ils peuvent être des fois un petit peu plus agressifs, mais difficulté à décoder le monde qui les entoure. Mm-hmm. Donc, c'est pas de l'agressivité pure, c'est pas des troubles de comportement, mais c'est vraiment relié à leur difficulté à percevoir les signaux que les autres leur envoient. Donc, la distance sociale, ça, c'est un concept qui est difficile à comprendre.
Je vous arrête ici, Sandra. Oui. Jennifer me disait quelque chose que je trouvais tellement révélateur. Et ça m'a bien marqué, Jennifer, lorsque vous m'avez dit que Adami, pendant longtemps, pendant plusieurs années, avait pas de désir. Vous lui disiez « Qu'est-ce que tu veux pour Noël? » Et il répondait « Des fraises. » Est-ce que...
N'importe quoi qu'il voyait. Ce qui était devant lui, c'était juste des choses. Il pouvait pas l'imaginer qu'est-ce qu'il voulait. Il me disait du travail parce qu'il aime travailler avec moi à la maison. Il aime faire des tâches ménagères. Lui, il appelle ça du travail.
Ouais. Donc, c'est ça, cette difficulté un peu de reconnaître les besoins, de reconnaître. Ça fait probablement partie du jugement dont vous parliez, Sandra.
Ça fait partie du jugement, oui. Ça fait aussi partie de la difficulté aux enfants qui sont atteints de EAF ou SAF à percevoir ce qui est abstrait. Ça, c'est extrêmement difficile. Donc, quand c'est pas concret, quand ils ne le voient pas, ils ne sont pas capables de l'imaginer. Donc, il faut vraiment que tout soit extrêmement logique, visible, tangible. Donc, ils vont fonctionner beaucoup mieux avec une routine, premièrement, ça c'est certain, mais avec des pictogrammes, combiner les apprentissages avec des matières, la musique, etc. Mm-hmm. Ça les aide énormément.
Jennifer a mis en place des stratégies qu'elle connaît, qu'elle avait déjà elle-même dans son quotidien. Je parle ici de yoga, de méditation. Est-ce qu'il y a d'autres types de stratégies qui peuvent aider un enfant qui vit avec ce syndrome-là à peut-être renverser les impacts ou ses retards?
Les renverser, ça serait difficile, mais pallier et apprendre à vivre avec, ça, oui, c'est possible. Donc, une fois qu'on le sait que l'enfant a ce syndrome-là ou ces effets-là sur le cerveau, déjà, on a une bonne partie du travail de fait. C'est beaucoup plus clair une fois qu'on sait que c'est ça et que qu'est-ce que ça va donner. Tout le monde va mieux comprendre, et les intervenants et les parents, et le milieu scolaire aussi. Donc, une approche qui est multisensorielle et multidisciplinaire. On se doit de travailler en équipe, autant les intervenants scolaires, le CPE, que le milieu médical aussi, les parents. Tout le monde va travailler dans le même sens, en se partageant nos trucs aussi. L'ergothérapie et l'orthophonie sont extrêmement importants. C'est probablement les deux professionnels qui doivent être les plus importants dans la vie de ces enfants-là pour aider au niveau du langage, parce qu'il peut avoir des difficultés au niveau du langage, tout ce qui est sensoriel. Donc, des enfants qui peuvent soit rechercher beaucoup les stimulations sensorielles ou au contraire, ou les deux des fois, être beaucoup plus sensibles aux stimulations sensorielles. Donc, marcher dans le gazon, les pieds nus, ça peut être difficile, réagir fortement aux gros bruits ou au contraire, des enfants qui vont se balancer au parc de façon exagérée.
En recherchant cette sensation-là.
Exactement.
Jennifer, l'impact de la méditation, du yoga, concrètement, sur Adami, ça a donné quoi?
Ça l'a donné. Mais je ne l'ai jamais imposé à Adami. C'est que moi, il me voyait pratiquer. Puis j'ai surtout commencé avec. J'ai remarqué quand il a commencé l'école, tu sais, on avait un horaire fixe. Moi, j'ai laissé Adami dormir.
Ouais.
Puis même à garderie, on arrivait vers 10h30, 11h.
Ouais.
Mais quand il a commencé la maternelle, on devait être là pour 7h52. Alors, j'ai quand même mis en place. J'ai commencé à me réveiller plus tôt. Je me réveille à 5h30 au lieu de mettons, 6h pour mettre en place un réveil doux à Adami en le massant des orteils, en nommant chaque partie du corps, en respirant. Ça a commencé comme ça. Et puis, en jouant juste 2 minutes au soccer, au handball, avant de partir pour l'école, c'est une manière pour moi et pour lui de juste sortir,
De se préparer,
de juste s'amuser, prendre ça comme se réveiller doucement, respirer. Puis là, c'est maintenant que quand il se réveille le matin, il voit que je médite, il va venir s'asseoir à côté de moi. puis il est vraiment bon en yoga.
On revient avec le modèle. Il reste peu de temps à cette entrevue, Sandra Caron, et je veux que l'on parle rapidement de la médication. Est-ce que ça existe pour aider l'enfant qui vit avec un SAF?
Ça existe, certains médicaments, pas nécessairement pour aller directement sur le SAF, parce que ça, c'est imprégné dans son cerveau. On ne peut plus rien faire pour ça exactement. Mais étant donné que ce sont des enfants qui vont avoir une attention plus déficiente et de l'hyperactivité aussi, on peut aller vers des psychostimulants pour comme un enfant qui aurait un TDAH, pour aller stimuler la partie du cerveau qui s'occupe de l'attention.
Ouais.
Donc ça peut aider. Et aussi, parfois on prescrit ça, un médicament qui s'appelle de l'intuniv ou la guanfacine, qui est un médicament qui, à la base, l'indication, c'est pour le déficit d'attention, donc pour améliorer l'attention avec l'aide de psychostimulants aussi. J'ai des enfants pour qui le contrôle n'est pas optimal, mais on peut aussi l'utiliser pour ce qu'on appelle l'autorégulation. Donc, être capable de se parler, être capable de se calmer avant de faire une crise, ça aide un peu l'enfant à décoder un peu plus les signaux qu'il reçoit de son environnement et à être plus capable de s'autoréguler, finalement.
Sandra, on aurait aimé continuer à parler avec vous vraiment longtemps parce que je sais que Jennifer, en ce moment, elle vit ce grand questionnement-là, à savoir est-ce qu'on offre des médications à un ami ou pas. Je pense que vous vous connaissez bien, donc on va vous laisser jaser ça ensemble. Ça a été un grand plaisir de vous parler. Vous saluerez Dr. Chikwan pour nous. Sandra Caron, vous êtes infirmière clinicienne clinique à la Clinique de santé internationale et tuberculose du CHU Sainte-Justine. Ça a vraiment été un plaisir et vous avez été très éclairante pour nous. Merci.
Ça m'a fait plaisir.
Merci.
Alors, merci à Marianne Paquette, à Benoît Rassette et à toute l'équipe, bien sûr, de cette émission Le National. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était Clotilde Seille qui vous souhaite une bonne semaine et qui vous donne rendez-vous pour un prochain National la semaine prochaine.